Bon, on va peut-être commencer après ces considérations générales qui sont à la fois des nourritures terrestres et intellectuelles. Installez-vous. Et Lilian me donne, enfin me passe le plat, si je puis dire, parce que ça va me permettre de commencer avec le livre de Benoît, qui justement concerne un petit peu les livraisons de repas. Alors aujourd'hui, donc la thématique c'est l'engagement. Je vous avoue que ce qui m'importe quand même, c'est qu'on parle des livres de chacun des auteurs. Puis après, je ferai un petit dégagement qui vous permettra de vous exprimer et peut-être de continuer le débat avec les auteurs à l'extérieur. Donc Tous complices, Noir diamant et Simple mortel de Lilian. Alors, dès le titre, je trouve que tu fais une annonce, en fait. Tous complices, tu nous mets dans le bain.
Alors, bonjour. Le livre ne devait pas s'appeler comme ça au début. Et c'est une idée de mon éditeur de l'avoir intitulé de la sorte. Et ça m'a plutôt plu parce que ça faisait un peu roman pulp, roman bis et un peu tract mal formulé. Alors que dans le roman, le personnage qui dit pour la première fois ces deux mots, ça vient de quelque chose de plus profond. Donc j'aimais bien cette ironie-là. Et ça m'a aussi plu parce que le mot complice... Et je trouve est revenu beaucoup dans le débat public quand on voit. Enfin, moi j'ai regardé beaucoup la télévision pour ce livre et il y avait toujours les uns qui accusaient les autres d'être complices de les fascistes, d'autres des islamo-gauchistes, enfin tout ce genre de choses réjouissantes. Donc je trouvais ça rigolo de, enfin rigolo. Enfin, en tout cas, je trouvais ça pertinent d'en faire aussi le titre. Et après, il y a aussi une pirouette, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tout le monde est complice, plus personne ne l'est. Et ça permettait, je trouve, de décrire le cercle vicieux du livre, quoi, du roman.
Alors, tu vas nous dire un peu l'objet du livre, mais et puis nous parler des personnages. Mais il y a quelque chose d'assez étonnant dans le bouquin, c'est qu'il y a un personnage, me semble-t-il, qui est presque le personnage principal, qui n'apparaît jamais, qui est là, tapis dans l'ombre.
Bah, c'est l'application. J'ai bon ? C'est bon, ok. Oui, bah, en fait, c'est vrai que... Dans le livre, en gros, ça raconte l'histoire de plusieurs personnages qui ont des métiers différents, mais qui tous tournent autour d'une application qui permet la livraison de repas à domicile. Et je l'ai appelé l'appli dans le livre, parce que j'avais essayé de trouver des noms un peu qui ressemblaient à ce qui existe, et en fait, ça ne marche jamais, donc je me suis dit, autant être le plus générique possible pour la désigner. Et effectivement, dans les premiers travaux, avant l'écriture, c'est vraiment le personnage qui n'est pas palpable, mais qui est diffus comme ça et qui les unit tous. Alors on a un livreur de vélo, on a une jeune femme qui en répare pour gagner quelques euros et survivre parce qu'elle est SDF, on a une journaliste, on a un avocat. Et c'est vrai qu'ils tournent tous autour de cette appli et ils ont tous, en fait, ils réagissent en fait à la manière dont celle-ci s'adapte à la ville, à l'économie, aux besoins des clients. Et en fait, c'est vrai que c'est elle qui donne le tempo du récit.
Oui, alors en fait, ce qui m'a intéressé aussi, c'est qu'on a l'impression que le monde que tu décris est divisé en deux parties et il s'inscrit aussi... il s'inscrit dans le virtuel et donc il y a le côté réel et fiction, voilà, d'une part, mais il s'inscrit aussi dans différents quartiers, c'est-à-dire qu'en fait il y a aussi une opposition entre deux mondes.
C'est aussi une conséquence de cette appli. Effectivement, elle unit des zones et des quartiers qui ne se parlent pas, enfin, en tout cas qui sont reliés par les routes, les lignes de métro, les RER, etc. Et par les vélos, les scooters qui font les livraisons. Mais effectivement, en fait, c'est un peu sa force maléfique, quoi. C'est-à-dire qu'elle est sous couvert de rendre tout très liquide et très faisable. En fait, elle gomme un certain nombre de disparités, alors géographiques, économiques, etc., etc. Mais surtout, elle les gomme pour ceux qui l'utilisent. Et ce qui était intéressant, je trouve, avec le roman, enfin avec le récit, c'était de montrer que derrière le monde sans douleur que l'application vend, les vraies et les fausses, il y avait quand même toute une logique derrière de travail, de douleur, d'exploitation par les exploités, et pas forcément que dans les choses les plus évidentes. Parce que là, hier, il y avait encore des livreurs qui manifestaient à Paris et dans plein de villes. Mais il y a aussi des conséquences sur des métiers qui sont moins visibles. Et c'était ça, ouais, qui m'intéressait le plus dans l'idée qu'on avait eue autour de ce livre.
Alors, donc ce monde, effectivement, ça c'est une partie du livre. On pourra peut-être revenir quand même sur certains personnages, donc le livreur, disons, que l'on suit dans sa trajectoire, il s'appelle Abel. Il y a un avocat qui a aussi un rôle important, et puis celle dont tu as parlé tout à l'heure, Léna, qui défend certaines valeurs. Bon, mais au sujet des valeurs, il y a un autre monde dont tu parles aussi et qui est, semble-t-il, aussi redoutable, qui aussi véhicule de la fiction, véhicule un discours. Maintenant, on parle de storytelling. C'est le monde des chaînes de Tout Info.
Oui, en effet, ça apparaît plus tard dans le récit. Enfin, ça apparaît au début, puis le truc est suspendu jusqu'à plus loin. Mais c'était une manière de mettre en scène, en fait. J'ai la prétention de croire que c'est un roman aussi sur la vitesse. Et donc, en fait, c'était assez naturel quand j'ai commencé à réfléchir à comment orchestrer le récit. Quel serait l'autre grand monde où aujourd'hui la vitesse est reine, et c'est venu assez facilement, en fait, et je m'y suis intéressé, donc j'ai beaucoup regardé beaucoup de chaînes d'infos en continu. C'était intéressant, c'était parfois dur, mais à chaque fois revenait, en fait, ce besoin du bandeau d'information, du tweet, de la réaction, de la réactivité, et de s'emparer de sujets. Alors qu'en fait, quand on zappe, enfin, je sais pas, sur le jeudi à 16h, où il n'y a pas forcément une actu folle, et qu'on zappe, elles parlent toutes de la même chose. Mais voilà, il y a toujours un besoin d'événementialiser le truc le plus anodin. Donc effectivement, quand il y a le moindre micro-événement, tout est monté en épingle. Et il y a une précipitation comme ça, moi, qui m'intéressait, puisque ça rentrait aussi dans mon récit et dans ma narration, parce que le principe, c'était de commencer très lentement et pour ensuite suivre un rythme de dégringolade. Et le modèle médiatique dont je parle dans le livre collait hyper bien. Et après, il suffisait de trouver le pont entre ces deux mondes, comme vous dites. Et voilà.
Et alors, il y a la question de l'ambition, de la réussite, du pouvoir, et dans les deux mondes. Parce qu'il faut, parler de la vitesse, mais il faut, il y a l'espèce de miroir aux alouettes qu'on va pouvoir s'en sortir, ces statuts d'auto-entrepreneur, enfin, ou équivalent. Donc ça, c'est une chose. Et puis, c'est pour ça que je voulais aussi parler de Léna. On a l'impression que tu as voulu, malgré tout, mettre en place un personnage qui pourrait incarner certaines valeurs.
Bah, en fait, je pense qu'ils sont... Ils ont tous quelque chose en commun, c'est qu'ils essayent un peu de s'en sortir avec les moyens qu'on leur donne. Que ce soit Abel, Léna, là, celle qui répare les vélos. Et en fait, elle part de la meilleure intention, mais comme tous. Ils ont tous une idée assez noble de ce qu'ils ont envie de devenir. Ils le font par des moyens différents. Alors, il y en a un qui ouvre un compte, l'autre qui décide de défendre ses mêmes précaires. Et Léna qui, effectivement, se dit... ils sont dans un engrenage tellement infernal qu'on va essayer de leur donner un peu de réconfort et d'humanité, mais à chaque fois, la bonne intention a des conséquences qu'ils ne peuvent pas contrôler, parce que justement l'appli, en fait, grâce à son algorithme et grâce à sa souplesse, parvient à muter et à mieux retourner, en fait, comme un gant, toutes les intentions que tous les personnages ont. C'est pour ça que c'est un roman noir.
C'est un roman noir. Et alors, puis il y a quelque chose d'assez étonnant, mais alors là, ça ne concerne pas forcément le roman, mais ça concerne les gens, enfin les personnes, c'est-à-dire nous tous aussi, hein, puisqu'on est tous complices, d'après ce que tu dis, qui, à un moment donné, vont sur ces plateformes, quelles qu'elles soient. Et ce qui est très curieux, c'est qu'il y a un paradoxe. C'est un paradoxe parce que on parle de protection des données, etc. Et il me semble que à ces plateformes, on livre tout.
Ah ben complètement. Et peut-être que si on pousse la logique du titre, c'est qu'en fait, on est complice ou partenaire ou victime consentante, enfin quoi qu'on. Ou pourri. Enfin, après, je vous laisse responsable de vos propos. Ouais, non, ça, je sais pas, après, franchement, parce que je me dis... Non. Bah, c'est toute l'ironie, l'ambiguïté de titrer un livre comme ça, mais ça, je veux bien l'entendre. Mais on m'a beaucoup demandé, mais du coup, est-ce qu'il faut boycotter, est-ce qu'il faut... Sans doute que, oui, les modèles sont malveillants, mais... En fait, un jour, on m'a posé la question et je dis, mais si on parlait de livraison de médicaments, on n'aurait pas du tout les mêmes termes. Parce que là, on est vraiment l'exacerbation de la société de service. Voilà, il en tombe. L'exacerbation de la société de service, et en fait, où tout est désigné pour le confort de l'individu. Donc en fait, c'est ça qui était intéressant. Et effectivement, on est sur la question de l'intimité. C'est la porte d'entrée de l'appartement et le dernier rempart pour les livreurs. C'est-à-dire qu'en fait, on leur donne tout. On leur donne notre adresse, nos digicodes, nos régimes alimentaires, le nombre de personnes qu'il y a dans notre foyer, selon ce qu'on commande. Donc en fait, avec un ticket de Deliveroo, on peut deviner pas mal de choses sur les gens. Et le dernier rempart, ça reste la porte d'entrée. Et c'est vrai que c'est la chose, c'est peut-être c'est très analogique, quoi, comme c'est un bout de bois, quoi. Alors que tout se fait par portable, tout se fait par Internet. Et c'est vrai qu'on est tous très 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 protecteurs de nos vies privées et de notre intimité. Mais quand on nous dit oui, mais si vous nous donnez un certain nombre de choses contre la livraison de repas, contre, et là on sort de 18 mois de où on a tous fait appel plus ou moins à ce genre de choses, là on est tout de suite plus souple.
Bien, alors j'aurais envie de poser d'autres questions, mais on est un peu pris par le temps parce qu'il y a une autre conférence derrière, donc je vais saisir la porte d'entrée, comme a dit Benoît, et l'ouvrir à nouveau avec mon voisin Jean-Hugues. Et alors là, Noir Diamant, je pense qu'il est nécessaire peut-être de décrire les forces en présence et peut-être de décrypter, enfin disons d'expliquer certains acronymes que tout le monde ne connaît pas.
Oula, ça marche là ? On va essayer. Liliane passe les plats, Benoît ouvre les portes. Voilà. Qu'est-ce que je veux faire ? De glisser la savonnette sous la pâte. Les acronymes, c'est les lettres pour... Bon, CIA, ça va. Et CIA, c'est la Central Intelligence Agency, NSA, National Secret Agency, DGSE, alors ça c'est chez nous, Direction Générale des Services Extérieurs, qu'on appelait avant la SDEC. Alors je rappelle que dans le langage des services secrets, les espions, c'est l'ennemi. Nous, c'est les agents secrets, c'est les bons. Les espions, c'est les méchants. Évidemment, dans le pays d'en face, c'est nous les espions, forcément. Ben non, ben c'est les forces en présence, je veux dire, sur un... Alors là, j'avoue qu'ils ne sont pas à bicyclette, ils ne délivrent pas des repas, mais ils traquent les infos. C'est un monde qui me passionne depuis quelques temps, à partir de l'économie, à partir des forces en présence. Comment va se jouer notre sort? On se rejoint un peu aussi là-dessus, justement, avec les réseaux. Comment l'économie s'empare du monde? Comment on passe, j'allais dire, d'une guerre de territoire à une guerre de pouvoir, à une guerre économique? En ce moment, il y a beaucoup d'articles qui disent retour de la guerre froide, sauf que la guerre froide originelle, on va dire URSS, comment dire, USA, était une guerre idéologique où les Américains étaient persuadés que les communistes allaient envahir les États-Unis. À mon avis, le paysan du fin fond du Minnesota n'avait pas du tout envie de vivre dans un kolkhoz, ni de partager sa maison avec 40 personnes. Il était très loin de ce genre de préoccupation. Actuellement, on aurait une nouvelle guerre froide avec la Chine. Je ne pense pas que les Chinois aient envie de venir s'installer dans le Berry. J'ai rien contre le Berry, c'est pas la question. Par contre, que le combat ait lieu au niveau de la domination des réseaux, la domination économique, des matières premières ou autres, et des choses comme ça, c'est vrai que ça se passe là, et après ça va se jouer entre, forces économiques, services secrets qui changent un peu, j'allais dire, de métier. La CIA, quand j'étais petit, déstabilisait le Chili d'Allende pour installer une autre idéologie. Actuellement, tout le monde s'observe, se pirate pour trouver des solutions, pour avoir la main mise sur les réseaux, sur tout ce qui est interconnecté. Et ça devient très compliqué parce qu'on travaille vraiment dans le virtuel. Et moi, ce qui me passionne le plus, tu m'interromps quand tu veux, c'est vraiment sur cette espèce de folie qui s'est emparée du monde sur du rien. Comme je dis, c'est le premier polar quantique. Je vous rappelle, le quantisme, c'est le chat de Schrödinger qui est à la fois mort et vivant. Actuellement, si vous faites ça métaphoriquement, au niveau de l'économie, on vient de créer 250 milliards pour sauver de la pandémie, 250 milliards qui n'existent pas. On n'a pas créé plus de produits, on n'a pas eu de meilleures récoltes, et il y a pourtant 250 milliards d'euros ou de dollars qui existent sans exister. On est totalement dans le truc quantisme. Donc ils peuvent disparaître du jour au lendemain. Donc si j'étais provocateur, puisqu'ils n'existent pas, rien ne nous empêche de passer le SMIC à 5 000 euros, puisque ça n'existera pas plus, mais les gens vivraient peut-être mieux. Et ça, moi, ça me passionne, parce que justement, on est sur une espèce de monde qui repose sur... quand je dis du virtuel, sur du rien, donc qui peut basculer du jour au lendemain. Si vous avez suivi la monnaie virtuelle, le fameux Bitcoin, qui il y a quelque temps valait 75 000 dollars. Un Bitcoin. Si vous en avez, pour acheter une Madeleine, c'est le bordel. Ça va faire 0,0000. Et puis du jour au lendemain, il est descendu, l'autre fois c'était à 40 000, quasiment la moitié de sa valeur. Il ne s'est rien passé de plus ni rien. Qu'est-ce qui se passe? Moi, ça me passionne. Ça veut dire que tout à coup, on passe d'un monde qui reposait, pour ceux qui sont comme moi des bandophiles convaincus, qui ont vu Goldfinger qui attaque Fort Knox, les réserves d'or des États-Unis, l'or à Fort Knox représentait la richesse des États-Unis. Actuellement, l'or à Fort Knox ne représente rien, sinon sa propre valeur de métal précieux, puisque les fortunes, qui s'échangent sont sur les réseaux, sont sur les applications, sont sur les échanges de messagerie, qui sont totalement immatériels. Avant, c'était plus simple. Il y avait du blé ou il n'y avait pas de blé. On fondait de l'acier ou on ne fondait pas de l'acier. Là, on passe du numérique. Comment le quantifier? Donc ça peut passer du jour au lendemain, de zéro à rien.
Alors, cela dit...
Ça se lit facilement, je préfère prévenir.
Alors, cela dit, revenons au livre. Bon, alors, oui, parce que tu as parlé de personnes qui n'existent pas. Effectivement, justement... On a une héroïne un peu particulière qui existe sans exister. Alors moi, je vais très vite parce qu'on est venu par le temps. Mais ce que j'ai trouvé épatant dans le livre, notamment, et qui donne du rythme au livre, c'est que tu as mis en scène un duo de femmes. Et il se trouve que il y a une tradition, malgré tout, des femmes espions. Alors, j'ai regardé un petit peu, j'ai fait un peu l'état des lieux. Nous, en France, on a assez peu de femmes espions. Il y en a plus au Mossad, et il y en a encore plus, apparemment, aux États-Unis et en Russie.
En France, on a quand même une longue tradition un peu machiste, il faut dire la vérité. Le Mossad a une longue tradition, j'allais dire, de parité. C'est un État qui est en danger perpétuel, donc tout le monde, femme comme homme, fait le service militaire. Moi, j'ai milité pour la parité. Pourquoi moi, j'aurais dû faire le service militaire et pas les filles? J'ai participé à un séminaire à Saint-Cyr-Coëtquidan avec des hauts gradés qui m'ont dit « Pourquoi voulez-vous foutre des filles ?» Eh bien, l'égalité, alors d'abord, je suis passé pour un bouffon, mais c'est pas grave. Les États-Unis ont un côté plus pragmatique et encore ont mis du temps à mettre des femmes dans les unités combattantes. Dans le cliché, côté russe, l'espionne russe, c'est Natacha, mais qui ne vient pas espionner, qui vient coucher avec le mec de la CIA pour trahir. Depuis, il y a d'excellentes espionnes aussi. Mais c'est le... Moi, c'est simplement... Je suis obligé de mettre, de toute façon, une héroïne positive dans chaque livre, sinon le fantôme de ma mère vient me tirer par les pieds. En me rappelant, Jean-Hugues, le polar est un milieu de macho. Tu es mon fils, tu ne dois pas être macho. Il faut laisser la place aux filles. Donc je mets toujours une fille sympa. Je rêve d'écrire un polar où il y aurait une infâme salope dégueulasse. Mais là, je sais que je serais maudit pour 5 générations par ma mère. Donc là, je lui ai mis un petit camarade, je lui ai mis une directrice qui n'est pas blanc-bleu, qui est toujours fille, mais qui n'est pas si simple. Mais ça m'intéressait justement pour avoir l'opposition. Et je lui ai mis un petit camarade français, parce qu'il faut aussi quand même toujours la parité, qui est plutôt sympa. Il a un nom particulier. Ah ben, il s'appelle Dominique Pérignon, et il déteste qu'on l'appelle par son diminutif, qui est Dom, Don. C'est pour faire Don Pérignon. Ça ne fait rire que moi. Mais bon, c'est ce qui fait le bonheur d'être écrivain, c'est qu'on peut se permettre ce genre de choses. Si vous percutez, vous ne perdez pas le fil du récit. Si vous ne percutez pas, vous continuez, c'est très bien. Et ben, en plus, c'est un excellent champagne.
Il y a des choses quand même. C'est pour ça qu'il faut vraiment lire le livre pour pénétrer ce monde. Et en même temps, il y a des incursions assez curieuses. Il y a des messages. Voilà, il y a des messages. Le livre est aussi rythmé par ces messages. Au sujet du style. Vous avez dû le remarquer avec Jean-Hugues. En fait, il y a des pirouettes, il y a des petites saillies. On ne peut pas s'empêcher de faire un peu d'humour.
C'est une obligation. Ça m'évite de me prendre au sérieux. Et donc de pontifier, de vous dire, camarade, j'ai la vérité révélée, je vais tout vous dire. Donc l'humour me permet de prendre un petit peu de distance. Alors ça ne veut pas dire, je vous raconte n'importe quoi. Ça veut dire, ne me prenez pas plus au sérieux que je ne suis. Par contre, ce que je vous dis est quand même vrai. Et c'est aussi un bon moyen pour expliquer des choses qui sont très difficiles à expliquer. Par exemple, c'est le seul exemple sur l'horreur économique. Moi, j'ai ça à côté de chez moi. J'ai encore vu, même dans les rues de Millau, une pizza achetée, une pizza offerte. La pizza est à 10 euros. Pour 10 euros, j'ai 2 pizzas. Donc une pizza vaut 5 euros. Voilà, 5 euros, j'en prends qu'une seule. Ah non, monsieur, c'est 10, mais il faut en prendre 2. Donc c'est un système qui va forcément dans le mur. Et ça, si je vous l'explique, comme à HEC, on va s'ennuyer. Par un petit tweet rigolo, je pense que le message va passer plus facilement. Mais je vous invite à y réfléchir. D'un point de vue économique, c'est quand même aberrant quelque part. Et ça, tout à l'heure, tu parlais sur la livraison de médicaments ou des choses comme ça. On peut l'appliquer à tous les domaines de l'économie où on marche un peu sur la tête. Je ne vais pas vous raconter ma vie, je suis célibataire, faire la cuisine pour un, c'est compliqué. Je vais acheter, monsieur, si vous me prenez 10 escalopes, qu'est-ce que vous voulez que je foute de 10 escalopes? Mais elles sont à 5 euros, j'en veux une, c'est 7 euros. Alors, j'ai acheté un congélateur. Au bout d'un moment, il faut être un peu logique. Mais en même temps, je me dis, c'est quand même hallucinant. Et c'est l'espèce de folie furieuse où le monde s'emballe comme ça. l'avantage par rapport à l'humour, là c'est des tweets, je suis nul, donc j'ai appris. Dans le roman précédent, c'était une chaîne radio YouTube. Dans celui d'avant, c'était une newsletter qui permettait justement, par le côté clin d'œil un peu marrant, de dire des choses qui autrement pourraient être un peu enfin, pontifiantes, lourdes à expliquer. Puis parfois, si, il faut un chapitre pour dire ben voilà comment ça se passe, pourquoi ceci, pourquoi cela. Je ne sais plus, il y a un film justement sur les, je pensais sur les livreurs qui est un peu sur le ton de la comédie, mais qui raconte des choses terrifiantes, qui passera peut-être mieux que sur le côté très très qui peut être très très dur. Bon, je vous donnerai un exemple. On a fait des films très durs sur l'horreur des camps. Les vieilles belles de Benigni, par le biais de la comédie, vous glace le sang de la même manière. On lui a reproché. Non, il ne se moque pas. Mais par contre, le sujet est tellement dur que ça permet de le passer. Et puis en rentrant chez vous, vous lisez « Aucun de nous ne reviendra » de Charlotte Delbo et vous aurez les deux facettes.
Bon, donc Noir Diamant, et si vous voulez comprendre ce que veut dire ce Noir Diamant, ben il faut lire le livre. Alors, on va passer à Lilian maintenant, puis après, je ferai une petite...
Mais attends, si, il y a juste un truc, c'est que comme il a fallu que tu achètes un petit congélateur pour tester de côté, là, tu me demandes, est-ce que tu as acheté 7 congélateurs ?
Non, j'ai mis les 7 dans un seul, je crois.
Alors, Lilian. Donc, ça y est, je me trompe dans mes papiers, moi. Parce que bon, ça n'a pas l'air, mais il faut un peu préparer, parce qu'avec des liloustiques comme vous êtes, voilà. Voilà, le maillot de bain, c'est celui après. Oui, alors voilà, il faut que je me remette un petit peu dans le livre. Oui, alors le livre, en fait, s'ouvre sur une rencontre, mais le ton du livre est donné dès le début du livre parce que il y a quelque chose qui gronde. D'ailleurs, il y a un orage. Et il me semble que tout le livre est placé sous ces ondes.
Je pense que c'est pertinent. Je pense que c'est pertinent. Alors je découvre un peu ça parce que je ne l'ai pas voulu. Je ne l'ai pas voulu comme ça. Mais c'est vrai qu'avec la jeunesse de ce livre, je conçois qu'on puisse le recevoir comme ça. Et il y a comme un bruit de fond qui est une musique finalement, hein, une musique de basse qui porte cette histoire. Même si il y a des ruptures de rythme à chaque chapitre, puisque le principe, c'est qu'il y a un chapitre sur deux qui est le journal, on va dire ça comme ça, d'une jeune institutrice de 50 ans, et les autres chapitres qui viennent couper sont des chapitres, je vais dire, rapides, des actions, quoi, des scènes où il se passe plus de choses, comme des scènes de guerre, par exemple, une scène de meurtre, etc. C'est vrai que je suis ravi de ce que tu dis là, parce que c'est un peu l'effet que je souhaitais faire, quoi. On est emporté par cette musique qui est un peu qui avance. Alors chaque fois ça avance, mais on ne sait pas trop où ça va, mais on sent quelque chose de lourd. De lourd avec des pépites joyeuses dedans. Hein.
Parce qu'en fait, ça gronde dans le ciel, ça gronde aussi à l'intérieur de celui qu'on va suivre à travers le journal de les écrits de l'institutrice. Et ça gronde aussi dans le paysage, parce qu'il y a, non loin de là, un barrage.
Il y a de l'orage dans l'air et effectivement, il y a différents ingrédients qui font qu'on se dit rapidement qu'il va se passer quelque chose. Et il se passe plein de choses, il y a plein de rebondissements, mais à chaque rebondissement, on sait qu'on n'est pas au bout. Bon, alors, Il y a une histoire d'amour. Je ne sais pas écrire un livre sans une histoire d'amour. Et c'est cette histoire d'amour qui porte le récit quand même, quoi. Parce que s'il n'y avait pas eu cette histoire d'amour, si cette histoire d'amour ne filait pas tout le long du livre comme ça, le roman n'aurait pas été possible, tout simplement. Mais autour de ça, ben, il y a le monde qui fait que rien n'est jamais simple, y compris l'amour, quand il est le plus authentique possible, le plus vrai possible, quoi. Et c'est l'histoire, ben, c'est un homme qui se donne à une femme qui se donne à un homme, avec une espèce de drame dans l'air, quoi.
Oui, alors, chacun porte en lui, en fait, une mémoire, la mémoire de son passé, parce que ce sont quand même des personnes assez mûres. Mais il me semble qu'il y a autre chose et qui fait que le récit est un côté extrêmement poétique et prenant, parce que il y a la prégnance de la nature. C'est-à-dire la nature, elle est malgré tout révélatrice. Bah oui, du caractère de chacun. Enfin, en tout cas, la confrontation à cette nature. Ça se passe dans l'Aude, c'est ça ?
Ça se passe dans l'Aude, ça se passe dans un coin reculé, dans les montagnes de l'Aude. Alors, je ne sais pas situer précisément. C'est une ville qui est imaginaire, qui n'existe pas. J'ai eu une critique féroce d'une chroniqueuse qui habite l'Aude et qui a dit « Mais j'ai cherché le village, il n'existe pas. » Non, c'était terrible. Donc, c'est un village, comment dire, générique, comme ça, hein, comme les hommes et les femmes préhistorique ne peignait pas généralement les pattes des animaux. C'était pour montrer que c'est un animal générique, parce que c'est à l'empreinte qu'ils reconnaissent quel animal est passé par là. Dès le moment où on ne met pas les pattes, ça veut dire que c'est une idée, qu'on représente une vache générique et pas telle vache particulière. Donc c'est un... Et puis, les gens, je les ai... Évidemment, comment dire, nommé, j'allais pas dire il, elle, mais c'est aussi des. Ça pourrait être pratiquement n'importe qui, quoi. Et ils sont confrontés à la fois à des problématiques complètement quotidiennes et à des problématiques qui déchirent le monde en même temps. Et c'est ce qui m'intéresse, de pouvoir mélanger tout ça, quoi. Les sentiments intimes et les forces qui nous dépassent tellement, celles du monde économique, et celles de la nature aussi.
Oui, alors c'est ça. C'est qu'il y a ce qui relie au thème qu'on a aujourd'hui, c'est justement, c'est cette... C'est, on peut dire que la raison du cœur et la raison d'État, et que la raison d'État ignore la raison du cœur. Et donc, c'est la confrontation de ce qui va tenir le suspense aussi dans le livre, et qui va être le lieu de la confrontation.
Oui, c'est vrai. Il y a eu une vingtaine d'années, lors de mon tout premier débat comme ça, table ronde, je suis tombé sur un médiateur qui me dit « Bon, mais finalement, vos romans, j'en avais deux, ils réhabilitent les grands sentiments. » Alors, sur le coup, j'ai pris ça un peu comme une baffe. C'était plutôt des polars... d'action avec des mauvais garçons, avec des filles de mauvaise vie, avec etc. Mais c'est vrai, je crois qu'au fond je suis très fleur bleue et que ça fait rire et que au fond ce qui m'anime vraiment, c'est de croire qu'on peut vivre dans le respect des grands sentiments. Et je veux croire ça, quoi. Je veux croire ça. Je veux croire que ma fille pourra vivre dans un monde comme ça. Je ne suis pas stupide. Je vois tout ce qui se passe autour de nous. Je vois tout ce qui se passe. Mais je veux croire ça, parce que si je ne crois pas ça, si je ne crois pas que chacun de nous peut se comporter de manière digne et de manière honorable, sans se vendre, comment dire, nécessairement à l'air mauvais du temps, moi je ne peux pas continuer à vivre, quoi. Donc je suis obligé de croire en ça. Mais je crois en ça comme on peut croire en Dieu. Bon, c'est en ce sens que je parle des grands sentiments, quoi. Je veux croire ça, et quand j'écris, je suis porté par ça. Je ne veux pas construire ça dans ce que j'écris, mais c'est ce que je suis, et je suis ravi que ça puisse transparaître, au moins en partie, dans les livres que je commets.
Ben, en tout cas, il faut lire ce livre. Moi, plutôt que Fleur Bleue, je verrais plutôt un peu Rouge et Noir. Mais bon, ça, c'est mon avis. Alors, on va très rapidement, chacun, vous allez réagir un petit peu pour parler un peu de polar et engagement. Enfin, voilà. Et pour cela, je vais citer, d'ailleurs... une écrivaine, je ne sais pas si on dit écrivaine, autrice, comme vous voulez, voilà, tout est permis, qui s'appelle Dominique Manotti et qui est ici, enfin pas dans la salle, mais qui fait partie du panel du festival, voilà, et qui dit la chose suivante, et je trouve que c'est assez intéressant, parce que, alors, pourquoi elle dit ça? Parce que, et moi je pense la même chose, je pense que vous êtes... avant d'être des militants, des personnes engagées, vous êtes d'abord des romanciers. Et elle dit « Le polar est une œuvre littéraire et donc en aucun cas réductible à sa dimension sociologique ou politique. Un livre, ce n'est pas un tract. Je ne crois pas qu'un livre change la société. Je ne crois absolument pas qu'un livre soit uniquement destiné à faire passer un message, une vision du monde. C'est écraser la dimension littéraire. Si un auteur a un impact, à un moment donné, c'est parce que, sur le plan politique et social, il se passe quelque chose. Victor Hugo n'écrit pas pour faire passer un message républicain. C'est parce qu'il y a des gens qui se battent pour la République que Hugo a eu un tel impact. Voilà. Donc, j'aimerais bien que vous réagissiez à ce qu'elle dit.
Elle avait mis la réponse dans ce que j'allais dire. Quand elle dit « un roman ne change pas la société », j'ai eu aussitôt envie de dire « La société change nos romans. » Parce que s'il n'y avait pas ces changements-là, ben on n'aurait rien à écrire. Donc, j'ai souvent l'habitude de dire « Quand le monde va mal, le polar va très bien. » Alors, je vous rassure, pour nous, en ce moment, ça va super bien. Mais je rajoute « Hélas !» Et contrairement à mon petit camarade, je suis plus désespéré. Je suis désolé pour ta fille. Je te conseille de plutôt croire en Dieu que de croire en l'homme, ça c'est sûr. Mais non, un livre va pas. Enfin, je pense qu'on va contribuer autant que nous sommes là dans le roman noir, dans le polar, dans ce genre-là, qui n'est pas simplement de pure distraction. On allume des petites lumières dans le noir. Je vais pas sauver le monde, mais j'entends quelque chose. Je me dis, j'ai l'impression que vous n'avez ou pas entendu ou pas. Enfin, c'est pas que vous êtes bête, mais vous n'avez peut-être pas mesuré ça, est-ce que j'ai tort ou pas? Le coup des pizzas, le coup des, comment dire, on va emprunter à taux négatif. Moi, c'est mon cheval de bataille en ce moment, c'est quand même génial. Monsieur, je vais vous emprunter de l'argent et je vais vous en rendre moins et vous allez être content. C'est un système qui ne marche pas.
Je t'emprunte ton micro pour avoir l'avis de Benoît.
Moi, je suis d'accord avec Dominique Manotti. Je ne suis pas très original, mais je... Oui, enfin, à partir du moment où on couche une ligne... On a un point de vue, donc estimer qu'on est au-dessus de la mêlée, je trouve ça marche pas, quoi. Donc oui, elle a raison. Enfin, ouais. En plus, c'est une collègue. Donc.
Non, mais enfin, bon, on a le droit de penser ce qu'on veut. Bien Et sûr. Lilian. Lilian, le panthéiste.
Je ne sais plus répondre à cette question parce que j'ai répondu tellement souvent que je ne sais plus dans quel sens je vais la tordre, quoi. Mais heureusement qu'il y a la littérature et heureusement que ça peut continuer à nourrir notre imaginaire. Je crois que tout ce qui touche à l'imaginaire est beaucoup plus puissant que tout ce qui touche à la raison. Quand la raison entre en comme un conflit avec l'imagination, c'est toujours l'imagination qui l'emporte. Bon, je sais que je devrais rationnellement arrêter de fumer et je n'y parviens pas pour des raisons autres que rationnelles. Quoi. Quand j'aime quelqu'un, je ne peux pas le mettre en équation, dire voilà, je vais mettre en équation, je sais. Non, on ne sait pas. C'est quelque chose qui vient du fond de nous, qui vient de nous, ça on le sait, qui nous traverse et qu'on ne comprend pas. Pour moi, la littérature, c'est un peu ça. Si je voulais expliquer des choses, j'écrirais des livres de philosophie ou des essais.
D'accord.
Merci Pascal.
De rien. Avec plaisir.